J'ai parlé la semaine passée d'un sujet. Et je n'ai pas terminé, je n'ai pas su terminer. Alors tant mieux, comme ça, on va prendre le temps. Je vais juste faire un court résumé parce que je pense qu'il y a des personnes qui n'étaient pas là. Et tant mieux si elles peuvent entendre. Et vous savez, même si une personne pouvait entendre qui n'a pas entendu, c'est bien. Et je pense que c'est bien pour nous aussi d'enfoncer un peu le clou et d'ancrer ces choses-là dans sa tête. Le sujet dont j'ai parlé la semaine passée concerne les ministères et les services dans l'Église. Le sujet dont je suis en train de parler maintenant concerne, en quelque sorte, notre manière de servir le Seigneur. Notre manière, je répète, de servir le Seigneur. Notre comportement dans l'Église, etc., etc. D'accord ? Et j'ai surtout parlé, et c'est là-dessus que je veux mettre l'accent, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, sur ce sujet-là, mais sur nos motivations. Nos motivations, d'accord ? Qu'est-ce qui motive mes actions ? Qu'est-ce qui motive ce que je fais ? Qu'est-ce qui motive ce que je dis, ce que je suis ? Mon comportement, qu'est-ce qui le motive ? C'est ça qui est important pour le moment, c'est de ça dont j'ai parlé. Et donc, voilà le sujet de la prédication. Travailler pour le Seigneur, travailler dans l'Église. Quelles sont mes motivations profondes ? D'accord ? Et c'est pourquoi j'ai intitulé cette série, alors je vous explique pourquoi. C'est pourquoi, parce que ça peut être une série, peut-être que je finirai pas la semaine prochaine ou quoi, parce qu'il y aura d'autres choses à dire, mais que j'espère que je prolongerai un jour. C'est pourquoi j'ai donné ce titre, qui est bizarre, mais que j'aime bien. C'est celui-ci, c'est « Même au sommet d'un clocher, un nain reste un nain ». Voilà. Alors, j'ai rien contre les nains, je ne m'en moque pas, évidemment. Il faut des petits, il faut des grands. C'est pas ça, c'est pas du tout, évidemment. Et vous savez ce que c'est le clocher d'une église. Nous, évidemment, nous n'avons pas de clocher, mais c'est le point le plus haut placé de l'église. Eh bien, pourquoi j'ai dit ça? Parce que je pense que tout le monde n'avait pas nécessairement capté d'un coup. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que si tu... Alors c'est Dieu qui pèse, n'est-ce pas? Et qui te trouve léger ou pas. Mais si tu es un nain, tu peux grimper et faire tous les efforts du monde pour arriver au sommet du clocher et même y arriver, tu restes un nain. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Alors, vous comprenez ça? Si ton but, ou si le but du nain que je suis, est de paraître plus grand, en me rendant visible, en me rendant intéressant, en faisant cet exploit de grimper là où personne n'ose grimper, eh bien, le nain que je suis passe à côté du but et passe à côté du but. Saisis ça. Et n'en demeure pas moins un nain. Un nain reste un nain même au sommet d'un clocher. Voilà, comme ça au moins c'est une phrase qui marque. Parce qu'il faut connaître nos motivations quand on fait quelque chose. Et donc, je voudrais, Fabienne, que tu puisses afficher le proverbe 21:2, parce que je voudrais le répéter ce matin, et c'est dans la version Summer, d'accord, qui dit ceci. Vous savez que nous tous, n'est-ce pas, quand nous faisons des actions, quand nous faisons des choses, quand on donne un petit quelque chose à quelqu'un qui fait l'aumône, par exemple, quand on décide de faire plaisir, d'offrir un cadeau, quand on fait quelque chose qui semble bien, en tout cas, ben on se dit, ouais, c'est bien, ça fait du bien à son ego, à notre ego, à notre moi. Ça nous fait du bien. Et tant mieux, c'est pas mauvais que ça nous fasse du bien. Parce qu'il y a aussi beaucoup de joie à servir le Seigneur. Ce n'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est qu'on peut le faire pour ça. Vous savez ça? C'est pourquoi la Bible dit d'ailleurs, et je n'ai pas affiché ce verset-là, mais que je peux tout faire. Je peux prophétiser. Je peux parler en langue. Je peux donner ma vie en sacrifice même. Je veux dire, pour être brûlé, je ne sais pas quoi. Je peux donner mon corps pour être brûlé, je ne sais pas. Je peux faire n'importe quoi. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est pour ça que la Bible dit ça. Parce que Dieu sait les motivations. Et donc, tu peux afficher le verset. Un homme, ça veut dire que l'homme, je pense que c'est plus compréhensible comme ça, je trouve l'homme, quelqu'un, croira que tout ce qu'il fait est juste. L'homme croit que tout ce qu'il fait est juste. Mais c'est l'Éternel qui apprécie les motivations. Voilà ce que la Bible dit. C'est l'Éternel qui pèse, qui apprécie. Apprécier, c'est apprécier, c'est mesurer, c'est peser, c'est sonder. C'est l'Éternel qui apprécie les motivations. D'accord ? Je voudrais que... Voilà, c'est le but le but principal, évidemment, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent vous parler, et tant mieux, mais c'est le but de cette prédication. C'est que tu, parce que ça ne concerne pas ton voisin, c'est que tu réalises contre qui tu as à te battre. C'est-à-dire, pas le diable, n'est-ce pas, toujours celui-là, mais... toi-même, ton ennemi, toi-même, mais pas toi-même dans le sens de nouvelle créature, évidemment, puisque si tu es né de nouveau, si tu as accepté le Seigneur et que tu es né de nouveau, il ne faut pas se battre contre le Saint-Esprit, bien sûr, vous l'aurez compris, mais celui qu'on appelle le vieil homme. Et mon but, aujourd'hui, la semaine passée, est que tu connaisses ton ennemi. Il faut que tu reconnaisses ce vieil homme, c'est-à-dire cet ancien personnage, puisque tu es né de nouveau, cette ancienne nature, ton ancienne nature, on dit le vieil homme, hein, il faut savoir ce que ça veut dire. Il faut que tu connaisses ce qui est de ton ancienne nature, de ta chair. Parce que tout ce qui vient de la chair... tout ce qui vient de l'ancienne nature, absolument tout, est mort. est mauvais, vous allez voir, je vais l'expliquer. Et rien de bon, et c'est la Bible qui le dit, le problème c'est que c'est difficile à digérer, parce qu'on se dit, ouais mais quand même, on n'est pas si mauvais que ça. Eh bien non, d'ailleurs, rien de bon ne peut sortir de la chair et de l'ancienne nature. Tout vient, d'ailleurs la Bible dit aussi, toutes bonnes choses viennent de Dieu. Toutes bonnes choses viennent de Dieu. Et si tu fais même quelque chose de bien, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu as même la faculté d'aider, il donne le vouloir et le faire. Tout vient de Dieu. Amen. Et donc, il faut que tu reconnaisses ta chair, ta ancienne nature, ton vieil homme, et savoir que qui il est, comment il agit, pour le repérer, pour ne pas le laisser encore détruire ta vie, parce qu'il est mort. Mais malheureusement, tant que tu es encore ici, sur terre, n'est-ce pas, tu es dans cette tente, dans ce corps. Et cette chose ancienne qui, lorsque tu rejoindras le Seigneur, disparaîtra, ne sera plus là, malheureusement, tant qu'il est encore, aujourd'hui. Alors, Paul dit, la Bible dit, et l'apôtre Paul dit, il faut marcher par l'esprit, il faut faire mourir le vieil homme, qui nous dit, d'accord, il dit ça, hein, Paul, il faut le tuer, il faut le faire mourir. Il ne faut pas essayer d'imaginer que cette vieille nature va être transformée, non, elle doit mourir. D'accord ? Et la plante, la nouvelle naissance doit grandir. Mais malheureusement, elle est toujours là, même morte, elle est toujours là. Vous savez, j'ai un bon exemple, c'est la plante, là. La nouvelle nature, vous voyez, elle vit, c'est ça qui vit. Et elle doit grandir, tellement grandir que l'ancienne nature, vous voyez, c'est ça qu'on voit, quand on vous voit, c'est ça qu'on voit. Vous voyez, c'est ça qu'on voit. Et le vieil homme, c'est ça, mais il est mort. Vous voyez, il est mort, mais voilà, il est mort. C'est pourri. Mais punaise, qu'est-ce que ça... Ouais. Qu'est-ce que ça... C'est sérieux, ça. Qu'est-ce que ça pique. Vraiment une saleté. Mais jamais ça ne va reprendre vie. Jamais ça ne reprendra vie. Jamais, c'est mort. Mais tant que vous êtes ici, voilà. Voilà votre apparence. Quand vous serez près du Seigneur, fini ça. Il faut le connaître. Parce qu'il faut savoir où ça pique. Il faut savoir où ça fait mal. Il faut savoir comment il se comporte. Parce que, bon, malheureusement, il est encore là. Et donc, c'est vraiment une belle image, je pense. Mais la Bible dit ceci, Jérémie 17, verset 9. Je relis le verset que j'ai lu la semaine passée. Ah, je suis content de le relire, même si vous l'entendez pour la deuxième fois. Parce que c'est important, quoi. Le cœur de l'homme. Alors, ça dépend les traductions. Ici, le cœur, mais certaines traductions, je ne vais pas dire toutes les traductions cette fois-ci, j'ai pris plusieurs traductions la fois passée, mais par exemple, dans Parole de vie, ils disent le cœur humain, etc. Bon, soyons clairs que ça parle du cœur de l'homme, du cœur humain. Est-ce qu'il y a un ange parmi nous? Je veux dire, un ange, un vrai, hein, quelqu'un qui n'est pas humain parmi nous? Y a-t-il un ange, un esprit, quelqu'un qui est déjà transformé, qui est déjà ressuscité en Christ, qui est déjà auprès du... Enfin, je veux dire, je ne sais pas moi, qui est en avance sur les autres? Ou il n'y a que des humains ici? Je pense qu'il n'y a que des humains ici. Non, c'est... Quand... Comment? Ouais, si ça fait encore le bruit, je vais... Ça va? On va tester, si ça fait encore, je prendrai l'autre. D'accord? Donc ici, il n'y a que des humains. Ce qui veut dire que tu es concerné et je suis concerné. Le cœur de l'homme est tortueux plus que toute autre chose. Ton cœur. Parce qu'il y en a qui ne l'admettent pas. Mais si tu n'admets pas ça, si tu ne comprends pas, c'est comme quelqu'un qui n'admet pas qu'il est pécheur, il ne va pas se convertir. Quelqu'un qui n'est pas malade, il ne va pas se faire soigner. Ah ouais, c'est pas plus compliqué que ça. Quelqu'un qui ne comprend pas que son cœur est tortueux, il ne va pas savoir se battre, il ne va pas savoir contre qui il a affaire. Ton cœur est tortueux, mon cœur est tortueux plus que toute autre chose. Il est méchant. Ça, c'est une autre traduction. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Parole de vie, le cœur humain est plus trompeur que tout. Et il y a des traductions. Ça veut dire que je suis même tout à fait capable de me tromper moi-même. Et c'est ce qui se passe. Et alors, vous savez, on devrait inviter peut-être un psychologue qui va vous expliquer le fonctionnement humain, les systèmes de défense, n'est-ce pas, qu'on a contre l'extérieur, pour se défendre, pour ne pas perdre l'estime de soi, etc. etc. Et il y a tout un processus comme ça, psychologique, mais c'est la vieille nature, enfin, je veux dire, qui se blinde et qui fait tout pour se tromper soi-même, juste pour se défendre. Mais ce n'est pas comme ça. C'est pas la réalité. L'important, c'est la nouvelle nature. Ouais, j'attends un petit peu parce que vous êtes distrait. Vous êtes distrait, non? Vous n'avez pas été distrait? Voilà, maintenant vous n'êtes plus distrait, j'espère. Voilà, ça va, d'accord? Donc tu dois savoir que ton cœur est tortueux. Tu dois savoir que ton cœur est rusé. Mon cœur est rusé. Je peux me tromper moi-même. Si je ne suis pas vigilant, je tombe dans les ruses de l'ennemi. Et là, je parle de l'ennemi parce qu'il vient, il utilise cette, il dit des petites choses, il utilise cette ancienne nature pour me faire croire que je suis quelqu'un de bien, pour me faire croire que ce que je fais est bon, pour me faire croire que... Et voilà comment ça marche. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Je dois le connaître, je dois le connaître. Et c'est pour ça que je dois savoir aussi reconnaître le Saint-Esprit et que je dois marcher par l'Esprit. Évidemment, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais voilà. Je dois marcher par l'Esprit. Je dois apprendre, tu dois apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit en toi. C'est-à-dire, ce n'est pas une voix audible, ça peut l'être, mais bien souvent, ce n'est pas ça, évidemment. Ce n'est pas une voix audible. Souvent, le Saint-Esprit agit par... Je ne sais pas comment dire si c'est un sentiment ou une impression, mais tu sens dans ton cœur que ce que tu fais n'est pas bon. Tu sens que ce que tu fais, tu ne dois pas le faire. Seulement ton cerveau, il va discuter avec ce que tu sens. Tout de suite, c'est comme ça. Il va dire, et ça c'est le vieil homme. Ça, c'est ce machin-là. Mais non, parce que dans le fond, c'est pas mal, parce que d'ailleurs, je voyais tel et même tel grand évangéliste, il faisait comme ça, et puis de toute façon, si je fais ça... Enfin, vous voyez, il y a le raisonnement. Non, ça va, d'ailleurs. D'autres le font, et Jésus lui-même, il a fait comme ça. Non. Mais tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Comment veux-tu que le Saint-Esprit te parle? Comment veux-tu que ta vie... Comment veux-tu marcher par le Saint-Esprit? Comment veux-tu que ta vie soit conduite par le Saint-Esprit si tu ne l'écoutes pas? Et pour écouter quelqu'un, il faut quand il y a plusieurs personnes qui parlent ensemble, je suis désolé, mais ça ne va pas. Alors, tant que tu ne fais pas taire cette voix-là, que tu ne reconnais pas ce vieil homme, eh bien, tu ne sais pas écouter. Tu es distrait, tu ne sais pas écouter. Et tu es toujours en train de raisonner. Toujours raisonner. Comprenez un peu? Alors, vous voyez, je reparle la même chose, je parle de la même chose, je résume ce que j'ai dit la fois passée, mais je n'ai pas dit ça. Allumé. Vous voyez? Voilà, comme ça j'essaye de réexpliquer peut-être encore autrement. Le cœur de l'homme est tortueux. Alors, qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Moi? Toi? Non, l'Éternel. Moi, l'Éternel, j'éprouve. Encore une fois, j'éprouve. J'apprécie, je sonde. Je ne sais pas si c'est le même mot, mais en tout cas, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. Alors, je ne sais pas si tu as déjà presque atteint le sommet de ton clocher, et si tu luttes encore pour atteindre le sommet de ton clocher, mais même si tu arrives, nain tu resteras, si tu l'es en tout cas, et c'est Dieu qui apprécie les motivations, c'est Dieu qui éprouve le cœur, je sonde les reins, et je rends à chacun selon ses œuvres et selon le cœur. Un exemple, et je reprends le verset que j'ai pris la semaine passée, mais je n'en ai pas parlé dans ma prédication, en fait, j'en ai parlé pour les annonces. Quand j'ai cité Jacques, c'était le chapitre 3, versets 14 à 16. Et vous voyez ce que Jacques dit, c'est ceci. Je me dis, tiens, mais ça, je peux l'inclure dans... Parce que ça montre un exemple du cœur de l'homme. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Alors, là, il y a un petit truc qu'on devrait... Ça devrait tilter. Comment ça? Un zèle amer, non. Non, non, moi j'ai envie que l'Église grandisse, et tout ça. Non, non, non.
Moi, je veux servir le Seigneur, je veux que l'Église... Oui, que, oui je veux qu'on prie plus, je veux que le Seigneur se manifeste, je veux qu'il y ait les dons de l'Esprit, je veux qu'il y ait des conversions, je veux... Ouais, non, mes désirs sont bons. Ok, ça va, si tu le dis. Ok, ça va. Un esprit de dispute, non. Non. Mais ça doit faire tilt. Ne vous glorifiez pas. Donc ça veut dire qu'il y en a qui ont un zèle mauvais. Un zèle mauvais, un zèle. Waouh, c'est une... Waouh, j'ai envie, je fais, je dis, je commande, je suis là. Waouh, un zèle. Mais il dit qu'il n'est pas bon, ce zèle-là. Et qu'il ne faut pas s'en glorifier. Et il dit, voilà, je vous dis ceci doit faire tilt, je vous dis ce qui doit faire tilt, ne mentez pas contre la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ne mentez pas contre la vérité? Ça veut dire que certaines personnes, nous pouvons, et nous avons cette tendance, à cause de ce cœur tortueux, à mentir contre la vérité. Comment ça se fait, ça? Est-ce qu'il y en a qui mentent ici, qui disent des choses qui ne sont pas vraies volontairement? Ça se peut, évidemment, mais ce n'est pas de ça que je parle. Ça veut dire que mon cœur, cette ancienne nature-là, ment même contre la vérité, contre le Saint-Esprit. Tu mens, des fois je mens. Combien de fois nous n'avons pas menti? Alors je ne parle pas du mensonge dans le sens que nous sommes des menteurs, nous trichons, nous disons des choses, oui j'ai été là alors que je n'ai pas été, etc. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est vraiment dans ce qui est plus profond. Je me persuade, je mens contre la vérité. Je dis que je sers le Seigneur, je dis que je l'aime. Je dis que je fais ça pour lui. Je mens contre la vérité parce que mon zèle est amer. Et nous sommes tous, absolument tous concernés et visités à certains moments par un zèle amer, de quelque nature qu'il soit. Parce qu'on est différent, évidemment. Parce que toi, c'est peut-être comme ça, un autre, c'est peut-être différent. Un autre, c'est peut-être comme le sapin. Parce que lui aussi, il est mort. Il est beau, mais il est mort. Voyez ? Alors, ils piquent autrement ailleurs, je ne sais pas. C'est autre chose. D'accord ? Et je dois apprendre à reconnaître ça. Je dois apprendre à reconnaître ça. Ce verset dit aussi, cette sagesse, elle n'est pas d'en haut. Voyez ? Parce qu'il y a une sagesse. Il y a des gens sages dans les églises, surtout dans les églises. Et surtout, quand quelqu'un arrive... Quand un nouveau converti, une nouvelle personne, ou quelqu'un qui vient d'une autre église, etc., il vient avec toute son expérience, ou un autre peut-être, non, il ne vient pas avec toute son expérience, mais il s'aperçoit qu'ici, chez nous, eh bien, chacun a sa Bible, et chacun peut dire son petit avis, et chacun peut y aller de sa connaissance, et voilà, et puis on ne méprise personne, n'est-ce pas? Et c'est bien tout ça. Et alors, on se met en avant et on a une sagesse qui cite des versets. N'est-ce pas? Qui donne des conseils, mais qui ne vient pas d'en haut. Oh, c'est des versets bibliques, hein? Oh, c'est une sagesse, oui, mais elle ne vient pas d'en haut. Elle est terrestre, charnelle, diabolique. Pourquoi est-ce qu'elle est terrestre, charnelle, diabolique? Alors que parfois, elle dit la vérité. Alors que parfois, cette sagesse met en exergue des choses vraies. Cite des versets de la Bible qui sont bons, mais au mauvais moment, dans les mauvaises circonstances, pour des mauvaises raisons, à la mauvaise personne. J'ai une apparence de sagesse, je dis des bonnes choses, je fais des bonnes choses, mais ce zèle est amer, terrestre, diabolique. Parce qu'il ne vient pas d'en haut et de l'Esprit-Saint, mais il vient de mon ancienne nature. Le cœur de l'homme est tortueux. Ton ancienne nature est tortueuse, rusée, diabolique, mauvaise. Il faut que tu la connaisses. Pour pouvoir apprendre à marcher par l'Esprit-Saint. et pouvoir sentir les choses qui viennent de l'esprit. Et si tu ne fais pas taire cette ancienne nature-là, si tu ne lui dis pas « tais-toi », j'en ai déjà parlé à des raisonnements, hein, soumettez toutes vos pensées, etc., à Dieu, etc. Si tu ne sais pas faire taire cette ancienne nature-là, si tu continues à l'écouter, et si même tu la fais parler, tu es toujours en train de la mettre en avant et de la faire parler, elle parle tout le temps dans ta tête, tout le temps elle parle. Tu n'entendras jamais le Saint-Esprit. Et tu ne seras jamais marché par l'Esprit. Et tu auras toujours une apparence de sagesse, peut-être vis-à-vis de toi-même, tu rassureras ton cœur par rapport à ce que tu fais, etc., etc. Mais cette chose est un zèle amer et ne vient pas d'en haut. Vous voyez ? C'est vraiment important. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et des mauvaises choses. Combien de fois j'ai vu des personnes qui disaient des choses tellement bonnes et les fruits, ben ça faisait des problèmes. Parce que ce n'était pas dit bien, ce n'était pas dit au bon moment, etc., etc., etc. Maintenant, ceci dit, parfois, vous savez, on dit aussi, nous on a un rôle, pasteur, ancien, etc. Parfois on dit des choses aux gens avec plein d'amour au bon moment et puis les gens, ben, ils s'en foutent, hein, ils n'ont pas envie de changer, hein. Alors après, ils répandent des choses. D'ailleurs, c'est encore le cas maintenant. Voilà. Il faudra peut-être que j'en parle, d'ailleurs, j'en sais rien. Parce qu'on dit des bêtises. Vous voyez ? Parce qu'on n'est pas content. Ça, c'est autre chose. Mais, voilà. J'ai vu des gens, ils disent la vérité. Le fruit, c'est quoi ? On reconnaît un arbre, quoi ? Ah, c'est fruit. Il fallait que tu pries avant. Et que tu réfléchisses si c'était le bon moment de dire ces choses-là, et comment tu devais les dire, etc. Enfin bon, voilà, ça va, d'accord? J'espère que vous avez bien compris. Apprends à reconnaître ton ancienne nature. Alors, je voudrais que j'avais dit que j'afficherais, donc, si tu devais afficher le numéro 1, hein, voilà, le dossier, c'est un nain de jardin. Voilà, c'est pour qu'elle le reconnaisse. Je donne des noms, vous voyez. Parfois, c'est un nom moins rigolo, mais voilà. Cette fois-ci, il faut que je reconnaisse, parce que j'ai chaque fois du numéro 1, 2, 3, 4 quand je projette quelque chose. Voilà. Ici, c'est le numéro 1, en parenthèse, nain de jardin. Vous avez compris pourquoi? Pourtant, ce n'est pas un nain de jardin, parce qu'il est bien vivant. Hein. Voilà. Alors, je vous avais dit que ce que je vous ai dit la semaine passée, j'aurais bien aimé l'afficher. Alors, comme ça, vous pouvez, si ça vous intéresse, vous pouvez prendre une photo, vous pouvez noter, vous pouvez, voilà, ça, au moins, ça rentre mieux dans la tête. Tous les humains sont injustes. D'accord ? Je ne vais pas le soulever trop fort parce que bon, il est vraiment pourri, celui-là. Celui-là, c'est vraiment un faux jeton, celui-là. Hein, parce que vraiment, l'intérieur, c'est pas beau. Bon, soit. Allez, je rigole. Tous les humains sont injustes. Parce qu'ils sont fondamentalement. Donc, nous sommes tous injustes. On devrait peut-être le dire comme ça. Parce que nous sommes fondamentalement. Au plus profond de nous-mêmes, égoïste et égocentrique. L'homme s'aime davantage qu'il n'aime Dieu. Ça va ? Ça, c'est pour tous. C'est ce que la Bible dit. Dès l'enfance, l'homme prend la place de Dieu et cherche son propre avantage. Alors, il ne sait même pas encore que Dieu existe, mais il cherche déjà son propre avantage. Dès l'enfance, ça commence comme ça. Parfois, il peut paraître juste. Et bon, mais il ne garde pas la volonté de Dieu dans son cœur. C'est-à-dire qu'il préfère suivre sa propre volonté, même si elle a l'apparence extérieure de la sagesse, mais c'est sa propre volonté. Ce n'est pas celle de Dieu. Ce n'est pas dicté par Dieu. D'accord ? Amen. Merci. Vous avez suivi ? Alors aujourd'hui, je vous avais dit que je parlerai, et je ne vais pas traîner là-dessus, parce qu'il n'y a pas besoin de traîner là-dessus. Vous allez entendre, digérer, mettre en application pour vous, vous poser des questions et puis c'est tout. Je vous ai dit aujourd'hui que ce que je voudrais, c'est que vous vous posiez des questions sur vous-même, des bonnes questions, et que vous ingériez, que vous digériez évidemment aussi ce qui a été dit maintenant. Alors, pour vous aider, j'ai un petit truc à vous... Enfin, voilà, bon, allez, je vais vous donner le titre, ça va être plus... Sinon, blablabla. Comment évaluer ma véritable motivation dans l'Église ? Est-ce qu'on peut... Je peux vous aider peut-être par quelques versets ? Comment évaluer ma motivation ? Ma véritable motivation. Il y a des petites clés comme ça. Alors peut-être qu'on n'en a pas vraiment besoin, certains n'en ont peut-être pas besoin, peut-être que certains ça les aidera, c'est pour ça que je ne vais pas traîner là-dessus. Mais on va le voir quand même. N'oubliez pas ceci, et Jérémia l'avait dit dans sa prédication il y a quelques semaines. Le service, tout service, toute BA, comme diraient les scouts, la bonne action, ça va ? Toute BA n'a pas pour but l'épanouissement personnel, jamais. Le but du service n'est jamais l'épanouissement personnel. Et si tu t'épanouis en servant, et ce sera le cas, si tu sers Dieu, tant mieux, mais ce n'est pas le but, jamais. Ça va ? Donc n'oubliez pas ça. Donc, première clé, enfin c'est un grand mot, hein, mais premier tuyau, je vais dire ça plutôt comme ça. Est-ce que, pose-toi la question, c'est ça que je veux, c'est que vous posiez des questions. Est-ce que je fais tout pour Dieu ? Ou en mon propre nom ? Il faut être honnête, voilà, c'est tout, sois honnête. Moi, ce n'est pas mon problème. Alors, il y a à chaque fois un verset, Colossiens 3, verset 17, qui dit ceci, il va s'afficher, mais je vous le lis déjà. « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, en parole ou en œuvre, je parle, j'agis, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant grâce à lui, pardon, par lui à Dieu le Père, excusez-moi, mais ce qui est important, donc, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, tu parles, tu agis, tu fais tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce le cas ? Verset 23, il dit ceci aussi. Tout ce que vous faites, oui, continue, c'est le même chapitre, c'est quelques versets plus loin. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Est-ce que je fais tout pour Dieu ou en mon propre nom ? Comme je l'ai déjà dit, je répète cette petite phrase qui me plaît assez bien. Veux-tu réaliser ce pourquoi Dieu t'a créé ? Est-ce que tu veux réaliser ce pourquoi Dieu t'a créé ? Où ? Voilà. Veux-tu réaliser ce pourquoi Dieu t'a créé ? Où ? Amasser un tiroir avec des médailles que les autres jetteront le jour de l'héritage, n'est-ce pas, quand tu ne seras plus là. Parce qu'on s'en fout des vieilles médailles. Souvent, c'est du toc en plus. C'est pas cher. Il y a, si vous voulez, je vous donne une adresse à ANU où on grave des coupes, tout ce que vous voulez. Ça ne coûte pas cher. Et on peut marquer n'importe quoi dessus. Vous dites juste ce que vous voulez. Ça va ? Si vous voulez, je vous donne un tuyau. Dans le zoning, hein, à ANU. Bon, il y a peut-être des trucs, il y a peut-être ça à Warren, mais je ne connais pas. Oui, très bien. J'ai déjà été. Voilà, ça va ? Excusez-moi pour le rire. Alors voilà, veux-tu réaliser ce pourquoi Dieu t'a créé ou amasser des médailles ? Parce qu'après, elles ne vont pas résister quand Dieu va apprécier, n'est-ce pas ? Elles vont paraître légères. Donc, est-ce que, Fabienne, tu peux afficher le 2 ? Et après, tu peux le laisser, en fait. Bon, chaque fois, je vais te demander des versets, hein, mais tu peux, après le verset, tu peux le remettre chaque fois pendant ce paragraphe-là. Voilà. Examen attentif des mobiles, de mes mobiles, d'accord, de mes motivations, n'est-ce pas ? Est-ce que mon mobile, ma motivation, c'est servir Dieu ou prétendre le servir, ou je prétends. Et je vous ai parfois parlé aussi de ceci, c'est que parfois beaucoup disent qu'ils servent Dieu, mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est se servir de Dieu. Beaucoup viennent à l'église, même se convertissent, parce qu'ils disent, ah, Dieu, c'est peut-être le moyen pour réussir ma vie et atteindre mes ambitions. Voilà, ça n'a pas été jusqu'à présent, donc je vais essayer Dieu. Bon, alors, voilà, Dieu peut utiliser peut-être parfois ce moyen-là, parce que c'est vrai qu'on a tous besoin de lui, évidemment. Mais ça ne peut pas rester comme ça. Ça va ? Donc voilà, alors, à la place du point d'interrogation, pour ce point-ci, vous mettez ambition, arrivisme, voilà, parce que je vous ai posé cette question, n'est-ce pas ? Est-ce que je fais tout pour Dieu ou pour moi-même ou en mon nom? Alors, vous devez avoir ce mot en tête. Ambition? Arrivisme? Ou c'est vraiment pour Dieu? Tuyau suivant. Ai-je de moi-même une opinion trop haute opinion? Romains 12, 3. On les aura tous faits. Hein. On cite souvent Romains 12, 2. Jacques Lemaire a parlé de Romains 12, 1. On va dire le 3 cette fois. On va parler du 3. Et il dit ceci: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Vous avez compris? Et avoir des sentiments modestes. Je ne sais pas tout. Je ne suis pas au-dessus de tout le monde. Je n'ai pas une trop haute opinion de moi-même, mais je revais des sentiments modestes. Examine, et peut-être fais-le chez toi, ça, je ne sais pas, mais toujours ça à cœur, t'es mobile. Servir Dieu ou prétendre le servir? Alors, à la place du point d'interrogation, vanité, point d'interrogation, voyez, autosatisfaction, c'est une question, complaisance, sont des mots, d'accord? Tuyau suivant, petite aide. Quel est votre regard sur les autres? Philippiens 2, 3 dit ceci: ne faites rien par esprit de parti, par vaine gloire. Par esprit de parti, ça veut dire que j'ai avantage, ou je tiens avec. Souvent, ouais, l'esprit de parti, vous savez souvent comment il se manifeste, l'esprit de parti? Famille. Il y a un problème dans l'Église, je défends ma famille. Je défends mon père, ma mère, mon fils, ma fille. Paf, tout de suite, il y a un problème, tout le téléphone. Mon fils, ma fille, mon père, ma mère. Tout de suite. Ça, c'est une attitude qui témoigne que tu n'es pas digne de Jésus-Christ. Waouh, c'est méchant. Eh bien oui, parce que Jésus dit ceci, on ne va pas afficher le verset, mais celui qui aime son père, sa mère, sa vie, son fils, sa fille, bref, sa famille, plus que moi, dit le Seigneur, n'est pas digne de ce. C'est ce que Jésus a dit. Alors, je précise pour ceux qui ne comprennent pas ce verset, j'en ai parlé mercredi, mais bon voilà, je suis quand même obligé de le préciser. Celui qui aime Jésus plus que sa famille, son père, sa mère, ses enfants, etc., ce n'est pas celui qui a un sentiment amoureux profond envers Jésus, parce que ça ne veut rien dire, mais c'est celui, c'est vrai que j'ai plus le micro, mais c'est celui qui, au moment de faire un choix, choisit de marcher par l'Esprit, choisit la parole de Dieu, choisit la droiture, choisit la justice, choisit, oui, la parole de Dieu, et n'a pas de parti pris, comme dit ce verset, faire les choses par parti pris. Même si mon enfant me dit, si tu ne me laisses pas faire ça, ou si tu ne me suis pas, et si tu ne m'appuies pas, je ne viens plus chez toi, tu n'es plus mon père, tu n'es plus ma mère. Écoute, ma fille, mon fils, je t'aime, mais ce que tu fais n'est pas bon. Je suis désolé. Voilà, ça c'est aimer Christ plus que sa famille. Donc, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, hein, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Dites-vous que vous avez toujours bien quelqu'un qui est au-dessus de vous-même et que d'ailleurs, qui que vous ayez en face de vous, quelque part, il est au-dessus de toi. Peut-être pas là, peut-être là, mais peut-être il faut avoir cet esprit d'humilité. Ça va? Alors, examen attentif des mobiles et de nos motivations. Est-ce que j'ai une attitude humble ou rebelle? C'est ça le point d'interrogation. Est-ce que j'ai une attitude humble ou rebelle? Et cette chose-là, pour vous aider encore mieux, elle se voit et elle s'entend. Elle se voit dans les comportements, elle s'entend par les paroles. Ça vous aide? Alors, tuyau suivant, si je peux dire comme ça. Est-ce que j'aspire à ce qui est élevé ou est-ce que je me laisse attirer par ce qui est humble? Et le verset dit ceci, Romains 12, hein, tiens, Romains, on fait encore un verset de Romains 12. Romains 12, verset 16. Et donc la question est celle-ci, est-ce que je suis attiré par ce qui est élevé? Ou est-ce que je me laisse attirer par ce qui est humble? Et Paul dit ceci dans son épître aux Romains. Ayez les mêmes sentiments qui étaient... Pardon, non, vous voyez, je suis parti sur un autre verset parce que j'ai ça. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Vous voyez? N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Et quand on laisse parler machin avec son raisonnement, on est toujours sage à ses propres yeux. D'accord ? Bon, allez, je me dépêche, je finis. Donc, la question, le gros point d'interrogation là, est-ce que j'aspire à des choses humbles ou à des choses élevées ? Alors, moi, j'ai des petits mots-clés comme ça. Recherche de popularité, de succès. Recherche de succès, peut-être. Bon, voilà, j'aurais pu... dire d'autres choses, hein, vous compléterez vous-même, sinon je vais vraiment être trop long. Chose suivante, avant-dernière chose, est-ce que j'aime être vu quand je sers dans l'église? Est-ce que tu aimes être vu quand tu fais quelque chose? Est-ce que tu aimes bien que ça se sache si ça ne se sait pas? Est-ce que tu dis un petit truc quand même pour que ça se sache si ça ne se voit pas? Vous savez, c'est la nature humaine. Hein? Est-ce que j'aime être vu quand je sers dans l'église? Matthieu 6, verset 1. Jésus dit ceci, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Autrement dit, votre récompense, vous l'avez déjà eue, vous êtes vu. Vous faites le bien, on vous voit, ça vous fait du bien, eh bien vous avez votre récompense. Est-ce que tu fais les choses pour être vu? Est-ce que tu aimes être vu? Est-ce que tu aimes que ça se sache? Voilà, alors il y a des petits mots-clés à la place du point d'interrogation, orgueil et vanité, parce que c'est ça. Et dernier point, est-ce que je marche humblement avec mon Dieu? Et je vous cite simplement ce verset, je termine. Dans Michée, chapitre 6, verset 8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. » Mesdames, mesdemoiselles, et ce n'est pas seulement pour les hommes, « On t'a fait connaître, ô homme, ô mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on vous a fait connaître ce qui est bien. » Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant Dieu, avec ton Dieu, pardon. Voilà, alors conclusion, donc fin de cette prédication, conclusion. Écoutez-moi bien, parce que vous n'avez plus pour longtemps à écouter. Tellement de chrétiens sont dirigés influencé, conduit, conditionné par toutes sortes de valeurs et d'émotions qui ne sont pas de Dieu. J'en ai assez parlé, n'est-ce pas? Je l'ai expliqué. Des valeurs, wow. La morale, plein de choses, des valeurs, des façons de faire, des trucs, des valeurs, des émotions qui ne sont pas de Dieu. Dirigés, les chrétiens donc, dirigés, influencés, conduits, conditionnés par des valeurs et des émotions qui ne sont pas de Dieu. Tu peux afficher le nain de jardin 3, s'il te plaît. Comme ça, vous lisez en même temps que moi. Comme ça, vous pouvez aussi prendre en photo, vous pouvez le noter, vous faites comme vous voulez, bref, et le relire chez vous. Et comme ça, vous, simplement maintenant, vous me suivez bien. Des vies entières, et je parle de vie de chrétien, n'est-ce pas? Des vies entières sont dirigées, ou tout du moins influencées, n'est-ce pas? Plus ou moins influencées. Ça peut être beaucoup ou moins... Bon, ça peut être... Des vies entières sont dirigées. Par quoi? Par un besoin d'épanouissement personnel. Et c'est ça qui dirige. Et c'est ça qui dirige la vie. Et c'est ça qui dirige mes actions. Et c'est ça qui dirige mes décisions. Le besoin d'un épanouissement personnel. Dirigé par le besoin d'être approuvé. Mais par les hommes, évidemment, pas par Dieu, c'est ça le problème. Le besoin d'être apprécié. Le besoin d'être considéré. N'est-ce pas? Et tout ça, à quelque chose de, si vous voulez, légitime, et c'est quelque chose dont Dieu tient compte, voyez, parce que, d'ailleurs, Dieu dit qu'il met parfois des personnes, il va élever certaines personnes qui en ont, enfin, je dis qui en ont besoin, enfin, c'est pas le mot, évidemment, élever, mais c'est Dieu qui s'occupe de ça. Le problème, c'est ce que j'ai dit au début, le but n'est jamais, jamais, jamais l'épanouissement personnel, même si Dieu, après, il va s'occuper de toi, c'est pas ça le problème, mais c'est pas le but, parce que ma chair est mauvaise. C'est le premier truc qu'on a affiché. L'homme, autrement dit, toi, moi, nous sommes profondément égoïstes et égocentriques. Et ça, on ne peut pas le changer. On peut juste laisser l'esprit et cette nouvelle vie grandir en nous, d'accord? Donc je le répète, pardonnez-moi, je le répète, mais ça doit rentrer. Et donc, ce n'est jamais le but, n'est jamais un épanouissement personnel, même si Dieu va faire ça dans nos vies. Et donc, ce besoin d'être considéré, ce besoin d'être vu, on en a parlé, on vient d'en parler. Le désir de plaire aussi. Vous savez, parfois on est gentil, et moi, quelque part, on va peut-être penser de plus en plus que je suis moins gentil, parce qu'on a toujours dit, mais Patrick, ouais, c'est un gros nounours, quoi. Hein? D'accord, le pasteur, c'est un nounours. Mais le problème, c'est que j'ai réalisé quelque chose. Quand je dis des choses... Si je parle à quelqu'un et que je lui dis des choses pour plaire, ben c'est pour plaire, c'est pas pour l'aider. Un ami dit la vérité, même si ça fait mal, même s'il dit je vais perdre mon ami peut-être pour un temps, j'espère qu'un jour il viendra à moi en se souvenant de ce que je lui ai dit. Mais moi je dis la vérité. Alors je préfère faire mal, mais dire la vérité, parce que si je t'aime, je dis la vérité. Et souvent, on est gentil. Il y a des personnes tellement gentilles dans l'Église. Mais pourquoi? Mais ok, c'est bien. Hein? Il ne faut pas être méchant. Et je l'ai dit tout à l'heure aussi, il ne faut pas dire certaines choses. Simplement, moi, je le dis. Hein? Moi, je le dis. Tu manques juste de maîtrise de toi. Dis-le au bon moment ou ne le dis pas. Bon, soit. Vous voyez, il y a les deux. Il faut être équilibré. Mais parfois, on est gentil. Pourquoi? Parce qu'on aime l'autre. Ce n'est pas parce qu'on aime l'autre. C'est parce qu'on a besoin d'être aimé et d'être apprécié. Le cœur de l'homme est tordu, tortueux. Désir de plaire. Dirigé par, on continue, la frustration. Parfois, ce sont des frustrations anciennes, nouvelles, qui nous font prendre certaines décisions et agir. Des regrets, et même de l'amertume, et même de la rancune, et même de la colère. Il faut pouvoir discerner ça. Parfois, c'est le désir de posséder, le désir de tout maîtriser, de tout contrôler, le désir de laisser une trace ici-bas, etc., etc. Il y a encore d'autres choses, ce n'est pas une liste exhaustive. Alors, c'est le moment de s'interroger. Qu'est-ce que tu cherches ? La volonté de Dieu ? Je l'espère. Mais il faut se poser la question. Elle est très importante et elle n'est pas si facile que ça, c'est pas si simple que ça d'y répondre. Vraiment pas si simple que ça d'y répondre. D'ailleurs, je donne un petit mot pour la volonté de Dieu et on affiche le 4. Oui, je sais pas aujourd'hui, hein, ma conclusion, je vous aide bien. On affiche le 4. C'est marrant, moi j'ai trois petites lignes, mais sur le truc, ça fait un grand bazar. Bon. Écoutez bien ça, soyez attentifs. Et franchement, prenez-le en photo, c'est vraiment intéressant. Une volonté qui ne relève que d'elle-même. Donc, une volonté qui ne vient que de vous-même, qui est employée à autre chose qu'à obéir, fut-elle utile et bienfaisante, est une volonté pervertie. Alors, je vous encourage à le photographier parce qu'il faut méditer dessus. Je sais que ce n'est pas une phrase qu'on digère comme ça d'un coup et qu'on comprend d'un coup comme ça. Une volonté qui ne vient, parce que parfois c'est une volonté qui vient de moi-même. Ma volonté, quand je suis chrétien, doit s'employer à se soumettre à la volonté de Dieu. Dans tout ce que je fais, je pense, je dis, je suis. Je marche par l'esprit. Et si elle vient de moi-même, même si elle est utile, même si elle fait le bien, elle est pervertie. Parce qu'elle vient de là. Et il y a quelque part, dans tous les exemples que j'ai pris, elle est touchée par quelque chose comme ça. Parce que rien de bon ne peut venir, c'est à approfondir évidemment, mais bon, je ne vais pas le faire maintenant. Parce que rien de bon ne peut venir de mon ancienne nature. Tout vient de Dieu, toutes bonnes choses viennent de Dieu. Il est impossible que l'homme dont la volonté n'est pas réglée sur celle de Dieu ne tire pas de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Jésus a dit les mauvaises choses, ben voilà, il a dit ça, voilà, tout simplement. Donc, Jésus a dit ça. L'homme mauvais tire des mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Et le cœur de l'homme, dites-moi, il est tortueux. Donc, ça veut dire qu'il est impossible que l'homme, je le répète, dont la volonté n'est pas réglée sur celle de Dieu, ne tire pas de mauvaises choses, du mauvais trésor de son cœur. C'est profond, hein, ce machin-là, faut pas croire, hein. C'est impossible. Impossible. Ce verset, si vous voulez le trouver, de ce que Jésus a dit, c'est dans Matthieu 12, 35. Et on affiche la toute dernière phrase, et amen, j'ai fini mon boulot pour aujourd'hui. Le 5, retenez ceci, s'il vous plaît. La fidélité, j'essaie d'afficher le L, là, c'est pas grave. La fidélité n'est pas le succès et l'habileté. Tu es peut-être habile, mais ce n'est pas ça la fidélité. La fidélité, c'est un état d'esprit où l'état du cœur prévaut, donc est plus important, d'accord, prévaut sur les choses accomplies. Ça passe, ça digère, vous comprenez ? Donc, la fidélité... C'est pas la réussite et tout ça. Non, oh, tu seras un grand homme de Dieu. Non, c'est pas ça la fidélité. C'est un état d'esprit où l'état de ton cœur prévaut sur les choses que tu fais. L'état de ton cœur prévaut sur les choses que tu fais. Alors, je vais pas prier, mais je vais vous inviter à vous recueillir un instant. Et je vais vous inviter à méditer ces paroles-là pendant la semaine chez vous. Vous voulez bien ? Et ce serait bien que, parce qu'on est peu aujourd'hui, hôpital, voilà, certains sont partis, et bon voilà, c'est tout à fait vacances de Noël, etc., beaucoup sont absents, etc., c'est dommage. Ce serait très intéressant que certains écoutent ce message, je pense, parce que ça aide. D'accord ? Je voudrais qu'on réfléchisse un instant.